Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage et je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, je peux vous aider avec des sessions de conseils par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 euros par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Je commence par quelques infos pratiques générales. Comment venir en Norvège ? Alors évidemment, vous pouvez venir en avion, il y a des vols directs Paris-Oslo, il y a quelques vols directs aussi Paris-Bergen, c'est entre 2h et 2h20 de vol depuis Paris. Et en fonction des périodes, il faut compter entre 250 et 400 euros, je dirais, à peu près par personne aller-retour. Mais il est aussi possible de venir en voiture. Alors je ne vais pas vous redonner tous les détails dans cet épisode, puisque j'y ai déjà consacré un article et un épisode de podcast entier. Donc je vous renvoie vers l'article sur le site qui s'appelle « Venir en Norvège en voiture » qui se trouve dans l'onglet « Tourisme info pratique ». Et aussi sur l'épisode numéro 24 du podcast qui s'appelle « Avoir une voiture en Norvège ». Et toute la première partie en fait du podcast concerne le côté touristique. La seule chose à laquelle il faut faire attention si vous venez en voiture, c'est que si vous venez en automne ou en hiver, les 4 pneus hiver sont obligatoires du 15 octobre au 15 avril. Deuxième point, quand venir en Norvège ? Ça, c'est une question que je reçois vraiment très très souvent. C'est est-ce que la Norvège, c'est mieux l'été ou l'hiver ? Donc, évidemment, c'est compliqué, voire impossible de répondre à cette question. Moi, j'adore les deux saisons. C'est simplement que si vous venez en été ou en hiver, évidemment, non seulement vous irez peut-être pas aux mêmes endroits, mais vous ferez peut-être pas la même chose. Donc, commençons par le côté été. Donc c'est vrai que l'été, le plus souvent, les gens font les trips autour des fjords, dans la région des fjords, dans le centre, dans le sud-centre de la Norvège. Mais c'est vrai que c'est une région qui est vraiment aussi très belle l'hiver. J'ai eu la chance de faire des tours en tant que guide dans les fjords été comme hiver. Et c'est vrai que c'est vraiment très très chouette l'hiver aussi. La seule petite remarque que je vous ferai concernant l'été dans les fjords en Norvège, c'est de faire attention au côté trop de touristes en fait. Parce que ça alors c'est pas un problème hein, évidemment, parce qu'on a besoin des touristes et on est très content d'avoir plein de touristes en Norvège parce que c'est un pays magnifique qu'on est très fiers de montrer aux gens, on est fiers de raconter l'histoire, etc. Simplement depuis plusieurs années, la Norvège est un petit peu victime de son succès, je dirais. Et il y a carrément, pour les Chinois, il y a carrément un syndrome, je me rappelle plus du nom, c'est un peu comme le syndrome qu'ils ont à Paris, là où ils sont choqués de voir Paris tel que c'est, que c'est pas la carte postale qu'on leur avait présentée. Et en fait, il y a un petit peu ce syndrome-là aussi l'été, en Norvège, dans les régions les plus touristiques. Donc un de mes conseils, ce serait, si vous pouvez, si vous n'avez pas d'enfants qui doivent respecter les vacances scolaires, d'essayer de venir en Norvège hors de ces périodes. Je dirais que la meilleure période pour venir l'été, en dehors de ces périodes de rush, en sachant que vraiment le mois de juillet, c'est vraiment le gros rush, de fin juin à début août, c'est vraiment le gros rush, ce serait de venir début juin, entre fin mai et début juin, sachant qu'il faut faire attention avec le mois de mai, parce que c'est vraiment la transition entre le printemps et l'été. Et certaines routes de montagne ouvrent vraiment très tard. Et c'est arrivé quelquefois que des routes très connues, comme la route des trolls, ouvrent tout début juin, parce que jusqu'à fin mai, il y avait encore de la neige. C'est aussi très sympa de venir visiter la Norvège Après cette période de rush, du coup, après mi-août, le point auquel il faut faire attention, c'est que là, à l'inverse, vous allez avoir pas mal d'endroits qui vont fermer assez tôt dans la saison. C'est-à-dire que pas mal d'hôtels, de restaurants et de musées qui se trouvent dans les zones touristiques, vraiment dans le centre de la Norvège, dans des endroits où il se passe pas grand-chose le reste de l'année, en fait, ces endroits-là, ils ferment très souvent fin août, début septembre. Les voyages en hiver sont en règle générale un petit peu différents. La plupart du temps, on va au nord du pays pour aller, par exemple, à la chasse aux aurores boréales, ou pour aller faire du chien de traîneau, ou pour aller faire des safaris, pour aller voir les baleines. Et ce sont des voyages qui sont très chouettes aussi. Et la seule recommandation que je vous donnerais, c'est évidemment de faire attention au climat, mais ça je vais vous en reparler un petit peu après. Plus tard dans l'épisode, je vais vous parler du climat en général pour en gros les deux saisons, pour l'été et pour l'hiver. Mais la période à laquelle il faut faire attention en Norvège, c'est la période autour de Noël, entre Noël et Nouvel An. J'en parle dans l'épisode sur les traditions de Noël, mais c'est vrai que c'est une période où tout est fermé, ou presque. Et nous, on s'est fait avoir avec mon copain, parce que notre tout premier voyage en Norvège, on a fait un trip entre Oslo et Bergen, justement, à travers les fjords. Mais nous, on s'est retrouvés à Oslo, entre Noël et Nouvel An, et en fait, la période juste avant Noël, c'est très sympa, parce qu'il se passe plein de choses, il y a la préparation de Noël, évidemment, il y a les marchés de Noël, etc. Mais tout ferme pour Noël. Et entre ces deux dates-là, entre Noël et Nouvel An, vraiment, c'est la misère. Tout est fermé, tout est éteint, tout est mort. Mmh. Nous, on était à Oslo le soir du réveillon et on voulait à la base faire un petit peu la fête, quoi. Et bah, on a galéré à trouver un restaurant ouvert. Tout était fermé et on a tout juste pu aller acheter une petite bouteille de vin ou de champagne, je ne me rappelle plus, pour célébrer le 31 au soir, mais c'était compliqué en fait, parce que tout fermait à 15h, donc faites attention à ça. Si vous y allez pour en espérant avoir de grosses festivités, vous allez être déçus. Je vous le dis tout le temps, la Norvège c'est un pays où tout est cher, mais les Lofoten, c'est encore un peu plus cher que dans le reste du pays, en fait. C'est vraiment une partie à part de la Norvège, parce que c'est un petit peu isolé, et parce que c'est loin, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont importées, qui sont plus chères, et tout coûte plus cher. Les logements, la nourriture, l'essence, tout coûte vraiment plus cher. Donc c'est un gros budget d'aller en vacances au Lofoten. Après, ça vaut le coup parce que c'est magnifique. Moi, j'ai eu la chance d'y aller une fois pendant presque 3 semaines pour un tournage pour Ushuaïa TV. C'était génial. Simplement, j'étais en mode boulot, donc c'est vrai que je profitais quand même qu'à moitié. Donc je rêve d'y retourner en vacances et je le ferai très certainement, mais je ne sais pas quand. Je vous rappelle que la Norvège ne fait pas partie de l'UE ni de la zone euro, mais elle fait partie de l'espace Schengen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, le fait qu'elle fasse partie de l'espace Schengen, ça veut dire que vous pouvez venir en Norvège avec simplement votre carte d'identité. Vous n'avez pas besoin d'un passeport. Simplement, votre carte d'identité doit avoir moins de 10 ans. En France, les cartes d'identité ont été prolongées, entre guillemets, de 5 ans. Mais si vous partez ailleurs en Europe, ça marche pas, c'est pas reconnu, et vous risquez d'avoir des soucis. On connaît plein de gens qui se sont fait refuser à la frontière, ça marche pas, vous avez beau avoir il y a des gens qui ont carrément essayé avec le papier de l'ambassade traduit, écrit en anglais, même écrit en norvégien, qui explique ces 5 ans de prolongation, de validité de carte d'identité, mais en Norvège, ce n'est pas reconnu. La Norvège ne fait pas partie de la zone euro, ce n'est donc pas la monnaie nationale, mais la couronne norvégienne. Si vous voulez emmener de l'espèce avec vous et que vous faites du change avant de venir en Norvège, faites bien attention puisqu'il existe 3 couronnes différentes, puisqu'il y a des couronnes danoises, des couronnes norvégiennes et des couronnes suédoises. Les trois pays n'ont pas la même monnaie. Vous me demandez souvent s'il faut avoir beaucoup d'espèces sur soi, comment ça marche par rapport à l'utilisation de sa carte de crédit, etc. Moi, j'ai jamais été trop fan d'avoir beaucoup d'espèces sur moi. Pour tous mes voyages, en fait, j'en avais un petit peu, évidemment, mais je payais quand même beaucoup de choses en carte bleue. Donc, en fait, ça dépend, hein, évidemment, de votre banque, des taux de change, etc. Donc, il faut vérifier. Mais en tout cas, toutes les cartes de crédit, toutes les cartes bleues fonctionnent en Norvège. On a tous des conditions de banque et de cartes de crédit différentes, mais je vous recommande, quand vous partez en voyage, d'envoyer un petit mail et de prévenir en fait votre banque que vous partez, parce que ça m'est arrivé d'avoir ma carte de crédit bloquée quand je suis partie à Prague. On est parti une semaine et je crois que j'ai pu retirer de l'argent et payer normalement avec ma carte pendant 2 ou 3 jours, et après ça a été bloqué en fait parce que ma banque pensait que ma carte avait été volée et que c'était des retraits frauduleux. Donc même si vous avez droit à des plafonds de dépassement, que c'est une carte spéciale voyage, etc., je vous recommande quand même de prévenir votre banque. Donc vous pouvez absolument tout payer. Surtout que ces dernières années, ici, il y a de moins en moins d'utilisation d'espèces. En fait, les billets et les pièces ont vraiment tendance à disparaître. Certains hôtels, carrément, depuis quelques années, n'acceptent plus du tout les espèces, en fait, pour éviter les cambriolages et pour éviter les allers-retours à la banque. Ils ne prennent plus du tout d'espèces. Donc, si vous voulez juste boire un verre dans un bar qui fait partie d'un restaurant ou manger, vous ne pourrez très certainement pas payer en espèces. Donc de toute façon, il y aura plein de situations pour lesquelles vous serez obligé d'utiliser votre carte bleue. Une petite mise en garde, qui n'est pas valable qu'en Norvège, hein, c'est une astuce un peu pour voyager dans le monde. Moi-même, je me suis fait avoir. C'était vraiment bête comme erreur, mais c'était au début de mes voyages, j'étais pas spécialement experte, mais il faut faire attention parce qu'il y a plein d'endroits où en fait quand vous allez payer sur le terminal de carte, on va vous demander si vous voulez laisser un pourboire. Donc il faut bien lire ce qu'il y a sur l'écran du terminal de carte. Est-ce que c'est écrit PIN avec les 4 petit point, à ce moment-là, c'est bien votre code de carte bleue qu'il faut entrer pour payer. Mais si c'est écrit tips, ça veut dire pourboire, et en fait, vous devez entrer la somme de pourboire que vous voulez laisser. Quelquefois aussi, il y a sur l'écran, sur une première ligne, la somme que vous devez payer pour ce que vous avez consommé, et en dessous, la somme que vous souhaitez laisser en pourboire, et du coup, avant de retaper votre code, vous devez entrer la somme que vous voulez payer. Donc moi, c'est vrai que la première fois que ça m'est arrivé, j'ai pas compris. On en avait pour 40 euros, par exemple, et le serveur, il arrivait avec le lecteur de carte, et il nous a dit « Bon voilà, ça fait 40 euros, vous voulez payer combien ?» Je dis « Bah, 40. Puisqu'on doit 40, on va payer 40 en fait. » Mais en fait, en Norvège, c'est vraiment très commun de laisser un pourboire tout le temps. Quelquefois, il faut rentrer la somme que vous voulez payer en ajoutant votre pourboire. Et quelquefois, il faut taper juste la somme du pourboire. Donc si vous n'avez pas fait attention à ça et que vous tapez votre code de carte, votre code à 4 chiffres, s'il commence par un 9 ou par un 8, par un numéro assez élevé, comme c'est un code à 4 chiffres, par exemple, vous allez laisser 9000 couronnes de pourboire, ce qui fait 900 euros. Et après, vous allez vous dire, bah c'est bizarre, ça n'a pas marché, je viens de taper le code, j'ai fait ok, mais ça me redemande de taper mon code. Et vous tapez votre code de carte bleue une deuxième fois, et là, ça vous débite des 9000 couronnes de pourboire plus de ce que vous avez consommé en fait. Autre information pratique, les prises électriques sont les mêmes, donc vous n'avez pas besoin d'adaptateur. Il n'y a pas de décalage horaire. Le seul décalage entre guillemets qu'il peut y avoir, c'est une différence de lumière, ce qui va m'amener au thème suivant, donc le climat et l'ensoleillement. Mais avant, je voulais vous rappeler que sur le site, dans l'onglet tourisme, vous avez une page info pratique avec plusieurs articles, dont un article qui s'appelle lui-même info pratique, où vous avez vraiment toutes les infos avec les numéros d'urgence, plein d'autres détails, etc. Donc je vous invite à consulter cet article. Le climat en Norvège, c'est un gros sujet. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la Norvège est un pays qui est tout en longueur, qui fait plus de 2500 km de long, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a pas du tout le même climat au sud et au nord. Il y a un petit peu moins de différence entre l'ouest et l'est, puisque c'est assez étroit comme pays. Entre le nord et le sud, il y a des grosses différences avec les montagnes au milieu. Si vous voulez écouter un petit peu comment est la vie au nord de la Norvège, vous pouvez écouter l'épisode 9 avec Delphine, qui habite au nord de Tromsø et qui nous raconte sa vie au quotidien. En fait, ici, c'est un climat très montagneux et très changeant. Donc pour ceux qui habitent à la montagne en France ou ailleurs dans le monde, ne seront pas trop dépaysés. Mais en fait, il faut vraiment prévoir comme si on allait à la montagne. Le tout premier conseil que je vous donnerais, ce serait de télécharger l'application météo norvégienne qui s'appelle Yr. Donc ça s'écrit YR, elle est gratuite, elle se trouve dans tous les App Store et Google Store. Et surtout c'est une application qui est très réputée, qui est très précise. Je crois qu'elle est utilisée aussi en France le long de la côte ouest par les marins puisqu'elle est réputée pour être très fiable. Je crois qu'elle est utilisée aussi ailleurs dans le monde. On a aussi ici le même dicton. Qu'en Bretagne, on dit que le temps change très vite et qu'on peut avoir les quatre saisons en une journée. Mais c'est vraiment vrai. Pour ceux qui sont déjà venus, c'est vrai qu'on expérimente quand même très souvent des gros changements de température ou un temps vraiment très 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 changeant dans la journée. Donc c'est à prendre en considération pour préparer sa valise. Par rapport au climat et aux vêtements, je vous recommande d'aller consulter sur mon site, toujours dans cette page tourisme info pratique, vous avez un article qui s'appelle « Préparer son voyage en Norvège » et vous avez tout plein d'infos sur le climat, sur les vêtements, sur le décalage horaire et vous trouverez aussi les vidéos, les reportages que j'ai faits qui vous montrent un petit peu les différences de climat qu'on peut trouver. Ici, on peut avoir les nuits polaires, où le soleil ne se lève pas pendant plusieurs mois, et on peut avoir le soleil de minuit. Alors ça se passe au nord du cercle polaire, et ce cercle polaire, il passe un petit peu en dessous de Tromsø. Mais si vous venez dans le sud de la Norvège, dans la région des fjords centre-sud-ouest, entre Oslo et Bergen, en gros, vous n'aurez pas ce soleil de minuit, puisque la définition du soleil de minuit, c'est que le soleil ne se couche pas, il ne descend pas sous la ligne de l'horizon. Alors quand on est dans le sud de la Norvège, il descend sous cette ligne de l'horizon, mais il descend très peu. Donc du coup, on a toujours effectivement une petite luminosité. Sur les trois épisodes avec Pascal Marquis qui nous raconte son voyage en Norvège, il parle beaucoup de cette luminosité en fait parce que c'est quelque chose qui l'a surpris et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui gêne. D'ailleurs, un de mes conseils pour venir en Norvège et dormir correctement si vous êtes sensible à la lumière, c'est d'emmener un loup pour se cacher les yeux parce qu'en fait il y a beaucoup de logements, si vous êtes en Airbnb ou si vous êtes à l'hôtel, où il y a soit pas de rideau du tout, soit des petits voiles très fins mais qui ne cachent absolument rien. Et si vous venez au mois de juin ou au mois de juillet, il n'y a pas de nuit. La nuit, à 4h du matin, il fait comme à 17h ou 18h en France. Alors, je vais essayer de vous décrire un petit peu le climat norvégien global. Après, évidemment, vous vous doutez bien que ça dépend des lieux précis où vous êtes. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que en Norvège, presque la totalité du pays est recouverte de montagnes, de glaciers, de fjords, de forêts. Donc, vous allez avoir toutes sortes d'atmosphère et de climat, même en termes d'humidité, différentes. Si on prend le centre sud de la Norvège, en gros, vous allez avoir l'été, entre le mois de mai et le mois d'août, des températures entre 15 et 25 degrés de moyenne, avec des pics de chaleur qui peuvent aller jusqu'à 30-35 degrés à certains moments, mais ça dure jamais très très longtemps, on n'a jamais des très grosses chaleurs, des très très grosses canicules, mais quand même, pour la Norvège, avoir plus de 30 degrés, c'est quand même pas mal. Vous aurez jamais de très gros froid non plus dans ces périodes-là, mais par contre, ça peut vraiment se rapprocher de 0 degré si vous êtes dans la région des montagnes et que vous montez un petit peu en altitude. En fait, c'est ça qui est compliqué pour faire sa valise et pour prévoir son séjour. Finalement, l'hiver, c'est plus simple parce qu'on prend un peu que du chaud, mais l'été, c'est plus compliqué parce qu'il faut de tout. De toute façon, quand on vient en Norvège, en gros, faut être habillé en randonneur, quoi. On vient pas en Norvège pour mettre sa petite veste en cuir, son petit jean et ses petites bottines à talons. Ça peut se faire si vous restez 2 jours à Oslo, mais si vous allez dans les fjords, si vous faites la traversée entre Oslo et Bergen, en gros, vous allez plus utiliser votre pantalon de rando et votre caouet que votre jean et votre petite veste en coton. Pourquoi ? Parce qu'il y a du vent, parce que même quand il fait beau, ben avec ce vent, il fait vite très froid. Par rapport aux équipements, les petits gants fins en tissu, c'est un truc que je vous conseille fortement parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être brûlée, en fait, à cause du vent. Je suis en train de vous préparer une vidéo qui sera un podcast aussi, mais une vidéo pour vous parler des produits de beauté et des produits de soins norvégiens, parce qu'on me demande souvent est-ce qu'il y a des marques particulières, qu'est-ce que j'utilise pour me protéger du froid, du soleil et du vent, etc. Donc ça, c'est un petit peu la situation générale pour le sud de la Norvège, mais si vous allez au nord, vous pouvez aussi avoir du très beau temps, mais il faut prévoir que les températures puissent se rapprocher de 0 degré. J'ai eu la chance d'aller jusqu'au Cap Nord avec une production télé, toujours pour ce film Norvège l'appelle du merveilleux avec Mathias Malzieu, et on y était allé au mois d'août. Et alors il faisait pas beau, hein, le temps était vraiment couvert, etc., mais c'était vraiment magnifique. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé est-ce que c'est chouette le nord de la Norvège, mais l'été, parce que c'est vrai que c'est une destination qui est plus souvent proposée l'hiver pour aller à la chasse aux aurores boréales, aller voir les baleines, etc. Mais l'été, c'est vraiment magnifique aussi, donc si vous aviez prévu d'y aller l'été, vous inquiétez pas, vous serez absolument pas déçus. C'est une route qui est sublime. Je dis c'est une route parce que il y en a qu'une. Il y a qu'une route, par exemple, pour aller de Tromsø au Cap Nord. Il y a qu'une route, il n'y a pas le choix. On y était en août et on a eu, je crois qu'il faisait 4 ou 5 degrés. Et avec un vent, mais il y a toujours là-bas un vent de fou. Et on avait ressenti de zéro. Donc on était habillés en hiver. Hein. On était vraiment habillés. Enfin, moi j'avais les mêmes vêtements que 6 mois avant où j'étais partie en tour au mois de décembre faire des trips en chien de traîneau. J'étais habillée pareil. Mais mon conseil général, ce serait d'avoir des couches fines que vous pouvez enlever, de prendre des sweats qui se mettent facilement, qui s'enlèvent facilement, mais pas des vêtements trop épais. Parce que quelquefois, c'est juste histoire de se couper du vent et de se cacher un petit peu. Il fait pas forcément froid, c'est juste que si vous êtes en t-shirt, vous avez vraiment besoin de mettre une couche au-dessus. Et si vous rentrez, si c'est l'été par exemple, que vous êtes dans les fjords, que vous avez froid, mais qu'après vous allez boire un café ou manger dans un restaurant, vous allez rentrer dans le restaurant, il y a de fortes chances qu'à l'intérieur il fasse très chaud. Donc du coup, vous allez avoir chaud, vous allez transpirer, donc il faut pas trop se couvrir en fait, faut mettre des couches. S'il pleut beaucoup, par exemple, je vous recommande d'avoir un pantalon kawaii, un surpantalon kawaii que vous venez mettre au-dessus, que vous enlevez dès qu'il pleut plus. Mais je vous recommande aussi surtout d'utiliser des vêtements de type randonnée, des pantalons un petit peu en matière imperméable et surtout coupe-vent. On en parle beaucoup dans l'épisode sur la vie au nord de la Norvège avec Delphine, donc je ne vais pas revenir sur tous les détails, je vous invite vraiment à écouter cet épisode, parce qu'elle habite là-bas, donc elle donne plein de bons conseils. Mais c'est pareil pour l'hiver, il faut prévoir des sous-couches, donc en laine ou en mérinos, et puis venir mettre par au-dessus les surcouches que vous pourrez enlever si vous voulez être plus à l'aise ou que vous avez trop chaud. On vient en Norvège pour se promener, pour marcher, pour faire des randos, pour découvrir les paysages. Donc ça m'amène à votre partie basse du corps, c'est-à-dire vos pieds. Il faut faire très attention à ce que vous emmenez comme chaussures et comme chaussettes. Je vous recommande pas de venir avec des petites tennis ou c'est bien d'en prendre pour mettre dans certaines situations le soir si vous allez juste marcher un petit peu, faire un petit tour en ville, etc. Mais pour le côté marche et promenade, je vous recommande quand même des chaussures de randonnée basses ou hautes ou vraiment des grosses baskets avec des grosses semelles parce que sur toutes les plateformes touristiques où il faut juste marcher un petit peu pour aller voir un point de vue, c'est quand même souvent avec un peu de cailloux glissants, des plateformes en métal ou s'il a plu, c'est vraiment très très glissant. Donc faut faire attention à ça. Prévoyez des bonnes chaussettes confortables pour être bien, parce que vous allez certainement marcher beaucoup. Donc c'est sûr que vous allez peut-être pas être super sexy, mais vous allez être bien confortable et vous allez mieux profiter de votre voyage. Je continue avec les accessoires. Là, c'en est un que je vous recommande d'avoir été comme hiver. Ce sont des bonnes lunettes de soleil. Alors, ça peut paraître logique et bête, mais en tout cas, je vous recommande des vraies lunettes de soleil bien polarisées que vous avez achetées chez un opticien. Pas des lunettes de soleil un peu de mode ou que vous avez payé pas très cher, parce qu'en fait, le soleil en Norvège est très violent et été comme hiver, automne et printemps aussi, hein, d'ailleurs vous aurez besoin de lunettes de soleil, ça dépend encore une fois de votre sensibilité. Et donc l'été le soleil peut être très fort, très violent et puis l'hiver comme partout en montagne avec la réflexion de la neige, ça peut être vraiment dangereux. Donc je vous recommande des bonnes lunettes. Autre accessoire classique de vacances, chapeau ou casquette. Et puis crème solaire évidemment, alors c'est un peu le kit des vacances d'été classiques, mais c'est vrai que quand on vient ici, on se dit souvent « Oh ça va, il va pas faire trop chaud, il n'y a pas trop de soleil ». Mais en fait, le soleil en Norvège est vraiment fort et violent. Et il y a eu une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, justement, au boulot, on en a parlé à Enerco. Et c'est un des pays où il y a le plus de cancers de la peau. Dernier petit point par rapport aux accessoires. Si vous vous êtes renseigné pour venir en vacances ici, vous avez peut-être entendu dire qu'il y avait énormément de moustiques. Alors oui et non, je dirais qu'il n'y en a pas plus qu'ailleurs, comme dans tous les coins un peu de montagne où il va faire un peu plus frais, un peu plus humide, s'il y a des lacs, des petits marais autour, évidemment il va y avoir des moustiques. Mais j'ai entendu dans les tours, quand je suis guide, des gens qui me disaient qu'ils avaient été mais tellement mis en garde contre ces nuées de moustiques par les agences de voyage, qu'il y avait carrément des gens qui avaient pensé à annuler leur voyage tellement ça les avait fait flipper en fait. Donc vous inquiétez pas, hein, quand vous allez arriver en Norvège, vous allez pas être au milieu de nuées de moustiques géants, c'est pas comme ça que ça se passe en fait, hein. Il y en a à certains endroits, mais moi, j'ai beaucoup voyagé en France dans tout le coin montagne, Alpes, Savoie, Haute-Savoie, etc. J'ai pas vu plus de moustiques en Norvège que dans ces coins-là. Hein. Donc certes, vous pouvez emmener des protections anti-moustiques. Et un petit conseil que je vous donne, c'est que j'ai découvert lors de mes dernières randos, un truc qui marche vraiment très bien, c'est un foulard en fait qui est traité contre les moustiques. Ça sent pas trop, ça sent rien du tout d'ailleurs, ça sent pas la citronnelle ou quoi que ce soit. Un autre point auquel il faut faire attention, moi je me suis jamais fait piquer, mais c'est vrai qu'en Norvège, il y a certains endroits où il y a beaucoup de tiques. Donc si vous avez un animal, si vous venez avec votre chien ou votre chat, faudra vraiment faire attention. Après chaque balade en forêt, faut vraiment tout bien inspecter parce qu'il y a vraiment certaines zones où beaucoup de gens se font piquer. Ça me renvoie d'ailleurs au côté vestimentaire. Moi je me suis jamais fait piquer, mais c'est vrai que je suis assez... Enfin les moustiques m'aiment bien. Et du coup je fais toujours attention quand on va se promener, même quand on fait pas forcément une grande randonnée rouge ou très physique, mais même quand on va se promener, qu'on va marcher, et que je sais qu'on va être un petit peu dans les sous-bois ou dans des situations où il peut y avoir un petit peu des moustiques ou des insectes, je mets toujours un pantalon long et je suis en débardeur ou en t-shirt la plupart du temps, mais je prends toujours un petit haut fin en matière synthétique de sport, mais pour pouvoir remettre sur moi si vraiment il y a beaucoup d'insectes, pour pouvoir me protéger mais pour pas avoir trop chaud. Et ça, je vous recommande de faire attention si vous êtes en short. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où il faut un petit peu crapahuter dans des petits chemins, où il y a des herbes par terre qui peuvent piquer, il y a des roseaux, etc. Donc je vous recommande quand même de faire toutes les promenades en pantalon. Et puis donc, l'astuce de randonneur qui, encore une fois, hein, peut ne pas être très sexy. Mais si vous passez dans une zone où vous savez que vraiment il va y avoir beaucoup d'insectes, eh bien l'astuce c'est de rentrer le bas de son pantalon dans ses chaussettes. C'est pas très sexy, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles en fait qui font les randonnées avec des leggings de sport mais serrants. Et en fait elles viennent mettre des chaussettes de sport qui remontent un petit peu au-dessus de ce collant. Et puis avec des chaussures de randonnée montantes par au-dessus. C'est un petit peu le look classique des filles qui font de la randonnée. Puisqu'on est dans le côté randonnée et promenade, je continue là-dessus. Et je voulais vous parler du degré de difficulté des promenades auxquelles il faut faire super attention. Parce que officiellement, c'est classé comme en France et comme partout ailleurs en code couleur avec du vert, du bleu, du rouge et du noir. Sauf que, c'est pas du tout les mêmes niveaux de difficultés qu'en France. Tout d'abord, pour trouver les promenades à faire en fonction du coin où vous vous trouvez, vous pouvez aller à l'office du tourisme ou aller sur le site de l'office du tourisme. La plupart du temps, tout est numérisé, en digital, vous avez des pages avec toutes les randonnées. Il y a plein d'applications différentes pour trouver les promenades et les randonnées, mais l'application norvégienne qui est la plus connue, la plus utilisée, elle s'appelle Hut.no, donc Hut.no, je vous mettrai le lien dans la description. C'est donc censé être classé par degré de difficulté progressif, hein, vert, bleu, rouge et noir, sauf qu'en fait, tout est presque décalé d'un degré de difficulté. C'est-à-dire que en France, le vert c'est vraiment plat de chez plat, il n'y a rien. Le bleu c'est un tout petit peu plus difficile. Les randonnées un peu plus physiques, mais quand même assez facile, c'est-à-dire faisable pour n'importe qui ayant l'habitude de faire un petit peu de sport, c'est du rouge. Et puis le noir, c'est vraiment un petit peu plus difficile. En Norvège, tout est décalé d'un cran, c'est-à-dire que le vert, effectivement, pour le vert, c'est à peu près pareil. Les randos vertes, c'est à plat, il n'y a pas de souci. Mais les randos bleus, déjà, dès le niveau bleu, il faut vraiment que vous regardiez le dénivelé positif qu'il va y avoir sur votre randonnée et en combien de kilomètres pour pouvoir vous rendre compte de la difficulté de la grimpe. Parce que déjà, dans les randos bleus, il y en a qui sont super durs, où il y a carrément des endroits où il faut vraiment un petit peu escalader et tout ça. Donc les bleus peuvent être vraiment, de mon expérience, équivalentes à des rouges en France. Donc faut faire super gaffe à ça. Les rouges en Norvège, c'est du costaud, quoi. C'est vraiment de la grosse rando. Et les noirs, c'est des randos où faut être équipé en... pour l'escalade, quoi. Faut y aller avec des harnais, des casques, et la plupart du temps, c'est des randos où faut être avec un guide. Dans la région des fjords et dans la région du centre de la Norvège où il y a les montagnes, il y en a vraiment beaucoup qui sont en rouge. N'hésitez pas à chercher aussi sur internet l'avis des gens. En général, les gens en dessous écrivent « Ah bah oui, mais attention, ceci, cela, il y a des avis un petit peu de gens qui ont fait ces promenades. » Mais faites vraiment attention parce qu'il y a eu plusieurs fois, il y a eu des accidents de gens qui sont partis sur des randonnées bleues, pensant que c'était bleu, que c'était une promenade en fait. Que c'était pas une randonnée, et en fait c'était une vraie rando où il faut être habillé en rando, quoi, avec des chaussures de rando, il y a des cailloux, il y a des endroits où il faut un peu escalader et tout, et si vous partez avec vos enfants en bas âge, ça peut vraiment amener à des situations dangereuses. Et faites attention aussi à ce qu'ils écrivent dans la description, parce qu'en fait les Norvégiens, c'est des grands sportifs, et le temps d'estimation des randonnées, il est fait de sorte que vous faites la promenade, mais presque en courant, avec mes 0-0 pause et avec un rythme super élevé. Donc, si vous êtes un couple avec des enfants, vous pouvez largement multiplier ce temps presque par deux. Nous, quand on fait les randos, en général, on rajoute facilement un tiers. Et quand ça va plus vers le rouge et qu'il y a beaucoup de kilomètres à faire, moi, je rajoute la moitié du temps en estimation, et c'est à peu près toujours ça. Donc sur les descriptions, quelquefois vous allez voir randonnée familiale, donc facile pour les enfants, mais c'est facile pour les enfants norvégiens parce que les enfants norvégiens, ils font de la rando depuis qu'ils ont 2 ans. Ils marchent comme des oufs tout le temps, ils font des grosses randos, ils ont l'habitude. Donc il y a eu plusieurs fois des cas, on a vu des incidents de gens qui se sont retrouvés bloqués en haut d'une rando avec un enfant un peu blessé, un peu fatigué, où faut envoyer les secours et tout. Donc faites vraiment attention à ça, parce que quelquefois quand on lit la description de la promenade, on se dit « Oh bah, promenade familiale niveau bleu, c'est bon, tranquille, on y va en petites sandales. » Mais non, en fait, c'est une vraie rando qu'il faut prendre au sérieux. Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt !